à cette soirée consacrée donc au rapport entre concurrence et coopération, qu'on a intitulé donc Face à la concurrence, quelle place donc pour la coopération. Donc cette conférence prend place dans le cycle que nous consacrons donc aux questions économiques, je dirais, enfin aux questions de l'entreprise. Et le Collège supérieur donc souhaite de fait avoir une parole pour autour de cette question de l'implication de l'entreprise dans la cité. C'est un sujet très très important à nos yeux, qui a été trop délaissé. Et donc pour se présenter donc rapidement, nous avons donc la joie d'accueillir ce soir Paul Roland, donc, qui préside aux destinées du syndicat de la métallurgie rhodanienne et qui est président donc de STEC. C'est une entreprise donc qu'il a lui-même fondée et qu'il dirige. Il vous en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure pour situer un peu le décor. Et puis c'est aussi avec grand plaisir que nous accueillons donc Gérard Budin, qui lui a présidé donc une grande coopérative laitière, la plus grande coopérative laitière en France, qui s'appelle Sodial et qui est plus connue du grand public grâce à ses marques Candia, Yoplait et depuis peu Entremont. Et puis bien d'autres marques ensuite que je ne citerai pas. Donc voilà. Et donc Gérard Budin est aussi là comme grand témoin finalement d'un modèle économique ou d'un modèle d'entreprise un peu spécifique qui est très présent dans le monde agricole, qui est donc le modèle coopératif. Et on l'a invité pour que justement il puisse nous apprendre ce qu'est ce modèle, comment il fonctionne, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses spécificités et finalement quelle alternative il peut représenter donc dans le monde économique aujourd'hui. Voilà. Donc vous connaissez la règle du jeu. Nous allons parler chacun pendant 15 minutes. Je vais commencer par une petite introduction philosophique, tour de concurrence, coopération, compétition. Voilà, qu'est-ce que ça dit aux sociologues et aux philosophes. Bon, et prendre peut-être un peu de recul qui est le recul de l'histoire pour parler de ce sujet. Et puis ensuite, donc, je donnerai la parole à Gérard Budin pour aussi 15 à 20 minutes donc, de propos. Et puis, donc, c'est Paul Roland qui, pour ainsi dire, conclura cette première séance de prise de parole. Alors, donc, pour planter le décor sur concurrence et coopération ou face à la concurrence, donc quelle place pour la coopération, je dirais d'abord que ce thème de la coopération est un thème à la mode, je dirais presque jusqu'à la nausée, quoi. C'est-à-dire qu'il est question dans tous les journaux, pour tous les intellectuels de la place de Paris. Il n'y a au fond qu'une seule question qui est celle du vivre ensemble. Bon, c'est une scie un peu désespérante d'ailleurs, mais on ne cesse donc d'interroger les conditions du vivre ensemble. La société postmoderne, comme on dit quand on veut faire le malin, est-elle une société rendant impossible en quelque sorte le vivre ensemble? Et derrière cette question du vivre ensemble, il y a bien la recherche désespérée de modes collaboratifs et probablement de modèles sociaux ou de modèles économiques qui valorisent davantage que ne le font aujourd'hui les modèles que nous connaissons, ce modèle de la coopération. Et pour montrer l'urgence, en quelque sorte, de cette exigence de trouver de nouveaux modes collaboratifs, eh bien, on évoque les grands problèmes mondiaux que ni les hommes individuellement, ni les nations individuellement, ni les continents individuellement ne peuvent, pour ainsi dire, traiter ou auxquels, au fond, tous ces acteurs ne sauraient séparément apporter de réponse. Et donc, je crois qu'il y a derrière l'idée, finalement, d'une gouvernance mondiale autour des questions mondiales, il y a bien l'idée, donc, d'une coopération mondiale sur des sujets qu'aucun acteur, ni individuel, ni social, ni politique, finalement, ne peut traiter séparément. Donc, il y a quand même... Bon, prenez simplement la question environnementale, prenez simplement la question climatique, on ne cesse d'appeler sur ces questions donc à une coopération mondiale parce que donc aucun des acteurs ne peut apporter de réponse par lui-même. Alors, cette exigence d'un modèle coopératif, enfin de cette exigence de trouver, j'allais dire, des formules, presque au sens chimique ou au sens physique, des formules coopératives, vient aussi d'un constat qui est vraiment, au fond, le constat de la postmodernité, justement, ou de la modernité finissante, qui est un constat sociologique extrêmement simple. C'est que, alors que les sociétés traditionnelles sont des sociétés holistes, avec un H donc, sont des sociétés holistes, donc révélant la primauté du tout sur l'individu, les sociétés modernes, les sociétés contemporaines donc encore plus, les sociétés postmodernes encore davantage, sont des sociétés individualistes. C'est-à-dire, au fond, fondé sur le consentement individuel, fondé sur la recherche par l'individu de ses intérêts, la poursuite de ses aspirations. Et si l'on peut dire que la valeur déterminante dans les sociétés holistes, c'est bien la valeur, justement, de la ritualisation collective de la coopération, mais qui n'est possible que parce qu'on ne demande pas vraiment à chacun son avis, hein. C'est-à-dire que les gars, on leur dit, voilà, bon, c'est comme ça, t'es dans le mouvement, vous traversez les différents rites qui vous permettent d'être intégré à la collectivité et d'être un acteur coopératif, pour ainsi dire, ou collaboratif, donc, de son destin. Bon, voilà, si vous n'êtes pas content, vous vous barrez, il n'y a pas trop d'autres solutions. Au fond, il n'y a guère que l'alternative de l'obéissance ou de l'exil. Les sociétés modernes donc, ont inventé un autre mode de fonctionnement fondé donc, sur l'individu. Et dans ce mode de fonctionnement fondé sur l'individu, ce qui prévaut, ce n'est pas donc, l'obéissance à on va dire, l'exigence d'interdépendance des acteurs, mais c'est le consentement individuel, c'est-à-dire que vous voyez, la valeur de l'obéissance se trouve remplacée par la valeur du consentement. Nul ne peut obliger quelqu'un à faire ce à quoi il n'a pas consenti. Alors vous allez me dire, oui, bon, et alors ? Où est-ce que vous voulez en venir ? Ah, mais c'est que dans un tel modèle, tous les individus vont entrer en compétition les uns avec les autres, car ils ont chacun des aspirations différentes, chacun poursuit des intérêts différents, et au fond, si chacun veut bien, de temps à autre, entrer dans le modèle collaboratif, c'est quand même cependant pour réaliser son propre intérêt, c'est-à-dire que la collaboration n'est pas du tout une coopération. Hein, la collaboration, au fond, fait croire qu'elle est coopération, mais au bout du compte, chaque acteur est porté par ses propres passions, par son propre désir, comme le dit Hobbes, le grand philosophe politique donc, qui ouvre la modernité, le désir d'être le premier. Parce qu'il y a donc, en effet, un grand philosophe qui a ouvert cette ère de la modernité, qui a décrit exactement ce qui allait se passer dans la modernité, qui a pour ainsi dire par avance écrit notre histoire, c'est Thomas Hobbes, au XVIe siècle. Et Qu'est-ce que nous a dit Thomas Hobbes? Il nous a dit une chose très très simple, c'est que il a fondé en quelque sorte l'anthropologie moderne, c'est que l'homme naturellement n'est porté que par un désir qui est le désir d'être le premier. Et le succès de l'individualisme ne vient pas directement du capitalisme, encore que le capitalisme a bien servi l'anthropologie individualiste, mais l'individualisme donc doit son succès à cette psychologie décrite par Hobbes, dans laquelle donc ce qui crée en quelque sorte l'impulsion de l'action, c'est le désir d'être le premier, c'est la compétition, mais tout le monde ne peut pas être le premier, mais dès lors, comme tout le monde désire l'être, nous sommes tous en concurrence. Autrement dit, ce que Hobbes nous a vraiment bien mis en évidence, voyez, c'est que ce désir commun d'être le premier, qui finalement transforme l'état de nature, dit-il, hein, ou le premier état social en un terrain de compétition, fait que nous sommes aussi tous donc en concurrence les uns avec les autres. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, comme Hobbes voit les rigueurs de la compétition et les rigueurs de la concurrence et ses effets éventuellement dévastateurs, ben, il va dire que là, par rapport à ça, si on ne veut pas que ce soit le bazar, et si on ne veut pas que ce soit la guerre de tous contre tous, comme il dit, ben, il n'y a qu'une seule solution, c'est une tutelle hyper puissante, une tutelle hyper forte, qui est la tutelle de l'État. Et Hobbes, en même temps qu'il invente l'individu moderne, invente l'État moderne. L'État centralisé, l'État puissant, l'État normatif, celui que le monde moderne va connaître, qui précisément va chercher donc à contenir cette agressivité, cette compétition entre les hommes, cette concurrence incessante dans laquelle ils sont. On va les soumettre à la loi, et la loi, donc, ça va être ce régulateur qui va permettre aux gens d'entrer bon an, mal an, de bon cœur ou de mauvais cœur, dans des relations qui seront davantage des relations de collaboration, des relations qui seront davantage donc des relations de coopération. Donc, vous voyez, l'idée... alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand je dis que Hobbes... Est-ce que je suis trop long déjà, camarade? Non, ça va. 5 minutes, vous me donnez encore. Ce qui m'intéresse beaucoup ici, vous voyez, c'est moi qui suis trop long, oui. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, quand je dis que Hobbes a écrit... à la moitié du XVIe siècle, notre destin, c'est-à-dire le destin des sociétés contemporaines. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement que tant que l'organisation sociale, je laisse de côté la conception de l'État, mais enfin, la conception de l'État y a joué bien son rôle, mais tant que l'organisation sociale polissait un peu tout ça, vous voyez, tant que l'organisation sociale, au fond, compensait les phénomènes de concurrence, strictement anthropologiques, hein, les phénomènes de compétition, je veux être le meilleur, je veux être le premier, et l'autre, finalement, est envisagé comme un rival. Okay, tant que l'organisation sociale, la ritualisation sociale, tant que la religion, qui a joué un rôle fondamental dans cette régulation, polissait les mœurs et les rendait, pour ainsi dire, plus douces, eh bien, les choses étaient, on va dire, équilibrées, hein, et étaient tenues donc dans une relative harmonie. Pensez par exemple, bon, je ne veux pas vous saouler de référence, mais pensez par exemple aux traités qui surgissent d'ailleurs au XVIIe siècle, qui se renforcent ensuite au XVIIIe siècle, aux traités concernant la civilité. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où le premier capitalisme se développe, parallèlement, on développe des traités de la civilité afin que nos conduites soient des conduites aimables. Voyez, alors même que nous sommes dans une anthropologie de l'individu, de l'intérêt individuel, d'une autre main, on produit ces traités de civilité, je ne veux pas vous donner des exemples particuliers, mais il y en a plein, dans lesquels donc on cherche à décrire ce qui fonde cette amabilité. Et bien sûr, sur ce sujet, ce sont les Italiens qui vont briller de mille feux en cherchant justement à développer ces attitudes un peu... la sprezzatura. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la sprezzatura. La sprezzatura, au XVIIe siècle, en Italie, c'est cette conduite noble, légèrement distante, qui fait qu'on ne la ramène pas trop, que certes, on sait défendre ses intérêts, mais dans le langage bien choisi de la diplomatie. Les traités de la diplomatie fleurissent à ce moment-là aussi. Enfin, vous voyez, il y avait toute une histoire à écrire autour de ça. Bon, je n'ai pas le temps d'en trop dire. Il faut que je laisse parler mes petits camarades quand même. Mais donc, vous voyez, sprezzatura italienne, c'est cet art du comportement qui vise finalement à compenser en quelque sorte les ardeurs économiques, les ardeurs de l'industrie, pour ainsi dire, voyez, et donc qui sachent faire de nous des gentilshommes au moment où l'âpreté du marché ferait plutôt de nous des sauvages, quoi, des brutes, même si on déguisait en quelque sorte cette brutalité sous des usages bien réglés. Et je crois que, finalement, si Hobbes écrit notre histoire, c'est que de fait, à partir du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, cette ritualisation sociale ne va cesser de s'affaiblir. Et en s'affaiblissant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'elle va en quelque sorte, cette ritualisation sociale qui s'efface, laisser finalement libre cours à la concurrence, à la compétition entre les individus. Au point finalement que tous les individus sont dans tous les compartiments de l'existence individuelle des concurrents. Il n'y a aucun domaine, moi je crois vraiment que le phénomène marquant des 50 dernières années du XXe siècle, je dis bien des 50 dernières années du XXe siècle, c'est-à-dire la fin de la modernité, le début de la postmodernité, le fait marquant sociologique. Il y en a deux, c'est l'émancipation des femmes, d'abord, et le deuxième phénomène marquant, c'est la concurrence à tous les étages. C'est-à-dire le fait qu'aucun domaine de la société, aucun domaine de l'activité sociale, aucun domaine des relations humaines n'est à l'abri des relations de concurrence. Il y avait le médecin de famille, il est aujourd'hui en concurrence directe avec Internet, avec les connaissances que l'on a des réseaux, l'aptitude à capter de l'information, etc. Il y avait le mari ou la femme. Mari et femme sont maintenant directement en concurrence sur le marché sentimental, sur le marché affectif, en concurrence avec le voisin de palier, en concurrence avec le voisin du premier, en concurrence avec le collègue de travail. La concurrence, en fait, est partout. Et c'est une illusion, vous voyez, de croire. Je pense qu'une partie de la violence de la société vient du fait que la concurrence est à tous les étages, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dormir sur nos deux oreilles comme la ritualisation sociale nous le permettait. Il n'y a plus de rente de situation. Il faut que je sois un mari hyper performant. Il faut que dans tous les domaines de l'activité maritale, j'assure. C'est l'exigence qui est formulée comme exigence de la concurrence. Alors, bien sûr que, et c'est ma conclusion, je reviens au même premier point. Vous comprenez bien que dans un monde où la concurrence est partout, qu'est-ce qu'on cherche à créer ? Bien sûr, de la réassurance, on cherche à créer du lien, on cherche à se dire « mais non, c'est pas possible, nous ne sommes pas sans cesse en état de rivalité ». Que les entreprises sont en état de rivalité, ils l'ont bien cherché. Monsieur Roland a créé une entreprise, il sait bien qu'il a des concurrents, que la bataille est rude, il a livré des combats terribles, pas toujours avouables, etc. Bien, c'est le jeu, il le savait. Vous comprenez ? Mais dans la société, voilà, les acteurs se disent, mais bon, il faut bien qu'on trouve, vous voyez, des éléments qui puissent équilibrer, hein, cette psychologie de la concurrence qui nous mine. Je suis professeur en classe préparatoire, je vois bien ce que c'est que la concurrence entre mes élèves. Je vois bien comment je suis tous les jours obligé de remettre du coopératif là-dedans. Vous comprenez ? Parce que tous sont dans l'obsession de la compétition, d'être le premier, de produire le devoir qui va les différencier, etc. etc. Donc, il me semble que, de ce point de vue-là, au fond, nous cherchons, hein, à instaurer des modes collaboratifs, que ce soit dans la société, que ce soit aussi, évidemment, dans l'entreprise. Et j'emprunte à un très grand sociologue, vraiment très grand sociologue, Richard Sennett, qui est aujourd'hui peu connu, qui est professeur à la London Business School et à New York University, un très grand sociologue, c'est-à-dire, c'est pas Bourdieu, quoi. On a fini avec Bourdieu, on a fini avec l'écrasement idéologique. Donc les bouquins de sociologie, ça vous raconte des petites histoires. Alors évidemment, c'est pour un Français, c'est insuffisant, parce que nous, on est cartésiens, tu vois, on veut que le truc linéaire, tu vois, le prémisse, conclusion, boum, conclusion générale et universelle qui vaut pour tous. Alors, les bouquins de sociologie, aujourd'hui, ça défrise complètement, parce que c'est plus du tout ça. Alors, ils chopent des petits trucs comme ça, puis ils les agrègent, ils regardent comment ça marche, etc. Richard Sennett, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre qui s'appelle « Ensemble », et dont le sous-titre est « Pour une éthique coopérative ». Et donc, Sennett propose, je conclurai là-dessus si vous voulez bien, au fond, de développer pour nos sociétés à nous, là, un idéal collaboratif qui n'est pas celui d'hier ou d'avant-hier, mais qui est ce qu'il appelle la coopération dialogique, un mode de collaboration dialogique. Et c'est quoi le mode de coopération dialogique ? C'est un mot un peu compliqué pour dire une chose très simple, comme souvent. Le mode de coopération dialogique, c'est, pour lui, le modèle est donné, alors ça va intéresser le chef d'entreprise, j'interrogerai M. Roland là-dessus tout à l'heure, il prend le modèle de l'orchestre. Il prend le modèle de l'orchestre de chambre. Bon, l'orchestre symphonique, c'est peut-être un peu grand, alors ça c'est intéressant par rapport à la taille, les effets de taille, tout ça, M. Roland peut-être nous dira des choses là-dessus. Mais, et alors, il dit, voilà, la collaboration dialogique, c'est l'orchestre de chambre sans chef d'orchestre. Et que permet la collaboration dialogique ? Eh bien, le fait que chacun apporte de manière parfaitement horizontale, sur le fond de sa propre compétence. Mais moi, je suis basson, violoniste, ou je suis pas alto, je suis pas bon. Sur le fond de sa propre compétence, qu'il apporte des éléments qui visent à structurer l'interprétation. Donc, ça veut dire que le dialogique n'est pas un hiérarchique, pour ainsi dire. Le dialogique, c'est vraiment l'égalité du dialogue. Alors, est-ce que c'est transposable ? Bon, j'ai des copains qui enseignent à l'ESSEC et qui cherchent à promouvoir ce qu'on appelle la hiérarchie horizontale, mais je suppose que ça va créer un certain nombre de réactions à ma gauche. Mais c'est peut-être de doux rêveurs, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, vous voyez, la collaboration dialogique, c'est cette collaboration dans laquelle, finalement, les méthodes, les procédés sont co-élaborés. Hein. La coopération vient de la co-élaboration, en fait, à la fois donc des procédés et de leur mise en œuvre, de leur mise en mouvement. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que, c'est ce que dit Sennett en tout cas, c'est que finalement ce modèle, c'est le modèle démocratique par excellence. C'est-à-dire ce que vise la démocratie, l'horizon de la démocratie, c'est la coopération dialogique. Alors, vous allez me dire, on est au lendemain d'élection, on est peut-être très très loin de la coopération dialogique. Bon, et peut-être que la démocratie n'a pas su mettre en place cette coopération dialogique. Mais, dit Sennett, si le politique ne peut pas le mettre en place, eh bien c'est peut-être aux acteurs économiques et aux acteurs sociaux à créer les lieux de cette coopération dialogique qui est la condition d'un véritable faire ensemble dans la sérénité de l'ensemble. Parce que ce qui est frappant chez Sennett, c'est justement de dire, mais c'est la même question que pose René Girard par exemple, enfin, comment la société peut-elle se survivre à elle-même avec la violence terrifiante qui la traverse? C'est toujours la même question finalement qui intéresse les sociologues. C'est comment est-ce qu'on peut survivre finalement à une telle violence? Et au fond, l'idée, c'est la coopération dialogique, cette coopération qui permet au fond de faire front, enfin d'affronter en quelque sorte donc cette violence liée donc à la déstructuration en quelque sorte du tissu social, ou en tout cas donc du vivre ensemble, comme je disais en commençant. Voilà. Alors, je vais maintenant céder la parole, après cette petite introduction globale et trop générale, donc à Gérard Budin, qui va chercher, je crois, à nous expliquer finalement comment le modèle de l'entreprise coopérative peut constituer un modèle économique spécifique et intéressant dans le climat de l'économie mondialisée. Gérard, je vous remercie d'être là. Et puis, je vais vous céder le micro et la parole.
Merci, Bruno. Et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, après cet exposé, effectivement, oui, général, mais de... Comment dire, de très haut niveau intellectuel. Moi, je vais redescendre un peu, peut-être un peu plus dans le concret, mais c'est toujours pour illustrer et entrer dans ce monde de concurrence. Je ne sais pas si les coopératives et si nos coopératives vont être de ces lieux qui vont instaurer la coopération dialogique. Mais voilà, parce que effectivement, dans le monde tel qu'il est, les dimensions qu'il a pris, disons, ces 20 dernières années et même ces 10 dernières années, avec la mondialisation, avec en plus dans l'économie la financiarisation qui s'est un petit peu, comment dire, le financier instrument de l'économie réelle qui s'est un peu érigé en système à lui seul, la concurrence est encore plus dure, encore plus sauvage, elle est sur la planète. Et ce que disait Bruno, et par rapport au monde que je connais et que je représente, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'agriculture, la transformation, le modèle alimentaire, comment on peut faire en sorte que tous les maux de nos sociétés, tous les questionnements géopolitiques puissent se résoudre pour nous éviter soit les grandes famines, soit les grandes catastrophes d'effondrement des prix et tout ça, et qui pour moi peuvent être extrêmement destructrices. Et est-ce que, et ça sera la première question que je vais évoquer devant vous, dans cette économie nouvelle et au couteau et sur la planète, où tout le monde n'a pas les mêmes armes, hein, je lisais avant de venir, parce que ma belle-fille est au Guatemala aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans la destruction des petites exploitations par rapport à certains grands groupes qui aujourd'hui s'accaparent de très grandes surfaces. Donc tout ça est très complexe. Ma première question, c'est: est-ce que ce modèle coopératif, et il s'agit bien de la forme d'entreprise coopérative qui est et qui n'est pas étatique comme on l'a souvent d'ailleurs assimilé, hein. On a souvent ringardisé les coopératives, hein, en disant elles sont d'un autre siècle, hein, elles étaient assimilées au collectivisme ou autre, et on les a rejetées. Mais compte tenu de tout ça, est-ce que ce modèle coopératif Et sans rejeter, je le dis de suite à M. Roland, ce n'est pas du tout pour dire que c'est le seul modèle. Et d'ailleurs, une coopérative, c'est une entreprise comme une autre avec des capitaux. Simplement, les hommes qui composent cette coopérative, il y a un homme, une voix, et ce n'est pas le capital, c'est-à-dire le détenteur du capital qui commande, qui exerce le pouvoir, mais c'est les hommes qui le composent. Alors, est-ce qu'elles sont dans ce monde encore pertinentes? Et ma deuxième question sera, qu'est-ce qu'elles apportent aujourd'hui? Est-ce qu'elles pourraient apporter à notre société? Est-ce qu'elles peuvent même être alternatives, au moins sur secteur d'activité? Et encore une fois, moi, je connais le secteur agroalimentaire. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à constituer, à animer, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure dans le débat, une grande coopérative. Voilà. Alors, déjà, je crois que la réponse, c'est malgré ceux qui condamnent le système, parce que c'est la foire, parce que chacun donne son avis, parce qu'il n'y a pas de rapidité dans les décisions, parce qu'on prend ou on veut traiter toutes les problématiques en même temps. Et pour moi, c'était le prix du lait de nos producteurs sociétaires. Et quand il y a des effondrements de prix et qu'ils ont besoin d'un prix supérieur, est-ce qu'on leur donne le prix du lait dont ils auraient besoin? Mais en face, est-ce qu'on reste compétitif? Est-ce que, dans l'alimentaire, et on a les clients, la grande distribution extrêmement pressante sur le plan des prix, on a des concurrents, et maintenant de plus en plus sur la planète, qui peuvent offrir, voire même en offrant, en faisant du dumping, à prix beaucoup plus bas. Comment on fait pour résoudre toutes ces équations? Ben, je crois qu'on peut dire que les coopératives, et aujourd'hui il y a un sursaut, hein, c'est certain, et les coopératives c'est extrêmement divers. Il y a la petite coopérative où quelques producteurs vont se mettre ensemble pour lancer une production. Moi, j'ai suivi, par exemple, la production de la framboise dans les monts du Lyonnais, dans les coteaux du Lyonnais, par une coopérative qui s'appelle La Sicolie, qui a d'ailleurs exporté ses framboises au Japon, par exemple. Au début, nous étions peu nombreux. Et puis, il y a les grandes coopératives dont je vous parlerai. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont démontré leur résilience. Et ça, c'est pas rien du tout, dans un monde qui n'était pas fait pour elles. Je dis parfois, dans la théorie de l'évolution, les coopératives n'étaient pas, il n'était pas donné qu'elles puissent survivre ou que celles qui survivraient restent de vraies coopératives quand elles sont très grandes. Et je vous parlerai la coopérative Solial, qui aujourd'hui fait 5 milliards de chiffres d'affaires. Bon, c'est pas rien du tout, cette problématique de l'agroalimentaire. C'est vital pour toutes les populations, hein, puisque tout le monde a besoin de manger. Et quand il y a soit des famines, il s'ensuit des problèmes politiques, des problèmes de révolution et d'équilibre des sociétés. Quand il y a des spéculations et des hausses de prix, eh bien, c'est les consommateurs, y compris de nos sociétés développées, qui n'arrivent plus à s'alimenter. Et tout ça est complètement, déréglé et accru par le fait que l'alimentaire, c'est pas tout à fait comme d'autres activités plus technologiques, même si l'alimentation l'est aussi, mais qu'il y a d'abord les aléas climatiques. Est-ce qu'El Niño sera cette année extrêmement fort? Est-ce qu'il y aura une sécheresse? Est-ce que toutes les sécheresses seront ensemble? Ou est-ce qu'il n'y aura qu'une sécheresse et que l'équilibre se fera sur le plan de la planète? C'est des produits qui, à l'état nature, sont périssables, donc il faut les stocker. Et on sait bien aujourd'hui que dans le monde, si on stockait et si on était capable de conserver tout ce qui est produit, on nourrirait le monde. Mais tout ça, ça ne se fait pas facilement. C'est des cycles longs entre la plantation, la récolte. Il faut voir sur la durée. C'est pour ça que je pense que le marché, surtout le marché complètement, disons, dérégulé, ne peut pas orienter, contrairement à ce que disent certains économistes ultralibéraux, ou certains responsables politiques, et surtout du nord de l'Europe, qui pensent qu'il suffit de laisser faire le marché et que les prix vont monter, les producteurs vont produire, et puis tout sera bien et la main invisible fera son œuvre. Mais oui, simplement, c'est que quand les prix montent, il faut 3 ans pour produire. Quand ça arrive en production, eh bien, les prix chutent complètement. Il n'y a pas d'élasticité. Donc, on va à des catastrophes. Donc, et ça doit reposer sur des filières solidaires depuis la production, la transformation, si possible, le transport et la distribution sur la planète ou ailleurs. Il y a les impacts géopolitiques, une révolution dans tel pays, ou simplement, quand un cas, par exemple, quand l'Argentine qui a développé sa production de façon colossal et qui a un potentiel extraordinaire, mais quand le marché de la viande était élevé dans le monde, ben mettait des taxes, il fermait les frontières et le marché mondial pouvait en être privé. Quand ils reconvertissent aujourd'hui complètement la pampa pour faire du soja transgénique d'ailleurs, tout l'équilibre peut être changé. Donc, tout ça va interférer et le seul marché livré sur des entreprises et les grandes multinationales qui souvent spéculent, vont chercher au plus bas prix, voire même vont faire tomber les prix, eh bien, je pense que les besoins des hommes ne peuvent pas être couverts par les seules sociétés où le seul capital et sa rentabilité forte est demandé. Et c'est pour ça que... et pourquoi ces entreprises ne peuvent pas toujours. C'est pas qu'elles cherchent à affamer, c'est pas qu'elles ne font pas bien leur métier, mais c'est simplement que les problématiques dans lesquelles elles évoluent, leurs propres contraintes font que le manager de telle multinationale, s'il ne délivre pas ses résultats trimestriels, s'il n'est pas à même de verser ses dividendes, si le cours de bourse chute un peu, eh bien, il sera débarqué. Voire même l'entreprise fera l'objet d'une EPA et ce sera détruit. Donc je pense qu'il faut sur ces... Bon, moi j'emploie souvent le mot de filière, ça vous dit sûrement rien du tout, mais sur l'ensemble de ces activités, combiner des facteurs qui sont parfois contradictoires, en plus... à côté de la sécurité d'approvisionnement, il y a la sécurité sanitaire, il y a les problèmes d'environnement. Il faut pouvoir créer des consensus par rapport aux différents acteurs parce que, autrement, et on a souvent parlé, disserté sur la nécessaire économie destructrice mais créatrice, il y a parfois de l'économie qui détruit, c'est-à-dire des producteurs ou des plantations ou des territoires entiers qui vont être désertifiés, mais où rien ne sera créé alors que demain ou après-demain, on a besoin. Et je pense que le système coopératif, c'est-à-dire sur le temps long, qui n'est pas contraint d'avoir le... disons, les retours sur capitaux qu'on exige aujourd'hui. Un jour, un de mes amis mutualistes banquiers ironisait sur les résultats que nous avions à Sodiaal en disant « Si vous n'êtes pas capable de délivrer 15, 18, 20% de retours sur capitaux propres, vous n'êtes rien, vous devez être viré. » Ben, on a vu la crise financière, que toutes les activités ne peuvent pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment font-ils, parce que... disons, de tels niveaux ne peuvent s'atteindre qu'avec des complémentarités qui sont spéculatives et on a vu le subprime et tout ça. Je crois même, et je réponds donc à ma première question, que le système coopératif, à la condition qu'il ne, ne se laissent pas aller à des travers. Et qu'est-ce que c'est les travers dans la coopération ? Ben, c'est des hommes qui, parce que l'autorité, certes, il y a une autorité, hein, ça n'est pas l'État. C'est jamais l'État, il faut pas confondre. Mais les décisions ne vont pas se prendre. Et les hommes, il peut y avoir, et j'en ai connu, des bagarres, tout comme dans toute société humaine, des bagarres qui annihilent ou qui font tomber cette entreprise, mais parce que en face, il faut avoir la même efficience, il faut faire les mêmes choix stratégiques, il faut être compétitif, hein, dans la grande concurrence, parce que je ne nie pas l'intérêt de la concurrence qui, elle, secrète par l'émulation qu'elle crée et apporte un vrai progrès dans le bien commun. Mais les coopératives, elles l'ont montré, sont à même de mieux répondre, de répondre, à cette problématique agroalimentaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent à notre société ? Est-ce qu'elles peuvent être, comme disait Bruno, une alternative, au moins sur certains secteurs d'activité ? Ben, je crois qu'elles apportent de l'équilibre. Hein, c'est-à-dire qu'à Sodiaal, quand on décidait de pousser tel produit laitier. Certes, on était contraint de fermer des usines parfois, mais tous les producteurs sociétaires, où qu'ils se trouvent, continuaient à être collectés et on assurait et on assure la pérennité de leur propre entreprise. Et souvent, les producteurs peuvent être petits. Donc, c'est une contribution au territoire par la solidarité, c'est pas rien, ça n'est pas un vain mot. Quand un producteur de Picardie qui produit 2 millions de litres, eh bien, reçoit le même prix que les petits producteurs des monts du Lyonnais ou des monts du Forêt, alors que son lait coûte beaucoup plus cher à collecter, il faut bien là une solidarité. Tout ça fait que, et je crois que c'est démontré aujourd'hui, par cette, disons, cet équilibre, cette durabilité sur les territoires, ben, fait que ça peut permettre de saisir un jour des opportunités. Ça permet pour les petites coopératives, les coopératives de Savoie qui font qui ont inventé et qui aujourd'hui font le Beaufort ou le comté, ça a permis des territoires entretenus qui eux-mêmes permettent de développer des activités de tourisme. Et il faut voir l'économie vivante de ces régions-là, Haute-Savoie, Savoie, enfin l'ensemble de l'Est central. Et c'est bien parce qu'il y a eu ces activités que c'est possible. Ça permet aussi la traçabilité exigée. Ça permet aussi, et là c'est plus, je vais peut-être aller sur un terrain qui n'est pas le mien, Bruno me pardonnera parce que je n'y excelle pas, je n'y comprends rien souvent d'ailleurs, j'ai tout à fait compris son exposé, mais le fait que ces hommes soient associés, hein, associés à la gestion et l'ensemble des sociétaires coopérateurs, ça leur permet de comprendre aussi des phénomènes qui dépassent l'horizon de producteurs isolés, hein, de producteurs isolés et souvent dominés. Ça leur donne aussi l'accès à des débouchés lointains. Par exemple, je suis très fier, juste avant de cesser mes fonctions à la coopérative Sodiaal, d'avoir signé un contrat important avec un partenaire chinois, hein, et le partenaire chinois qui vient installer en France une usine pour transformer du lait. C'est donc des producteurs qui auront du travail, c'est des salariés qui auront du travail, c'est le groupe qui sera enrichi de cette manière-là. Je pense que c'est infiniment plus responsabilisant que la seule opposition des différentes classes, hein, c'est infiniment plus constructif que la lutte des classes, dont on souffre, à mon avis, beaucoup trop en France. Ça donne de la dignité humaine à chacun des acteurs. Vous comprenez que je suis très attaché et que je crois en ce système. Alors, à côté, le fait même et l'organisation capitalistique du mode coopératif, par ses réserves impartageables, hein, l'enrichissement de la coopérative est capitalisé après avoir, bien sûr, payé les producteurs, ses salariés, si possible. Et il faudrait envisager de davantage associer, y compris les salariés, à ses fruits quand la coopérative, disons, fait des bénéfices. Et elle doit en faire, hein, et elle doit complètement en faire. Le profit est un outil nécessaire au développement et à la pérennité d'une coopérative. Mais les réserves restent et sont impartageables. C'est pour ça qu'il y a un statut fiscal légèrement différent ou amélioré. Mais c'est que, par cette manière-là, elle ne se rachète pas de génération en génération et elles peuvent continuer leur travail et leur développement. Les fusions, quand les hommes sont assez sages et visionnaires pour les faire, et il s'en fait beaucoup aujourd'hui dans la coopération française, hein, si j'ai le temps, je vous parlerai du groupe Sodiaal. Les fusions peuvent se faire parce qu'on verse au patrimoine commun l'ensemble et sans trop, disons, comptabiliser ou faire de différence en fonction des richesses qui sont apportées. On peut donc faire des unions et lorsque les égoïsmes disparaissent, je crois vraiment que la coopération, et je réponds à ma deuxième question, la coopération peut apporter, encore une fois, dans le secteur que je connais, mais je connais ailleurs, j'ai été au Conseil économique et social et environnemental à la section de la coopération avec l'ensemble des coopératives françaises et j'ai beaucoup côtoyé les gens qui animent des SCOP, par exemple, il y en a qui marchent très très bien. Donc, lorsque tout ça est réuni, je crois qu'il ne faut pas jeter et qu'il ne faut pas dénigrer et il faut au contraire capitaliser sur les coopératives.
Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je serai sans doute beaucoup plus court que notre orateur qui nous accueille, Bruno, merci, et puis mon prédécesseur, monsieur Budin. D'abord, donc, monsieur Bruno Roche vous a parlé de mon entreprise et des fonctions que j'ai à la métallurgie rhodanienne. Donc, c'est vrai que je suis président de la métallurgie rhodanienne, très puissante métallurgie rhodanienne. Mais ce soir, j'interviens plus au titre de mon entreprise pour partager des expériences que j'ai vécues plutôt que dans le mandat dans lequel je suis installé aujourd'hui. L'entreprise que je dirige, ce n'est pas du tout une coopérative. C'est une entreprise industrielle qui a 35 ans d'existence, que j'ai créée à l'âge de 22 ans. Je me suis dit à cette époque-là, pourquoi pas moi ? Et au jour d'aujourd'hui, en deux minutes, en des petits exemples, si votre téléphone venait à sonner maintenant et que la communication passe par satellite, sans doute serais-je dans le satellite qui achemine la communication. Mais en fait, vous n'entendez pas et on vous installe des micro-électrodes dans l'oreille interne raccordées aux terminaisons nerveuses et ça vous permet d'entendre la communication. Là, je serai chez vous. Pour faire un peu dans la sinistrose, le fait d'entendre va vous provoquer une frayeur qui provoquera un infarctus, qui révélera lui-même une restriction, enfin une thrombose ou une sténose, et on vous installera donc un petit ressort pour dilater l'artère. Grâce à nos technologies, vous aurez retrouvé la santé. Immanquablement, pour continuer dans la sinistrose, cet infarctus vous aura provoqué une paraplégie, j'en ai bientôt fini. Et à l'aide de micro-électrodes implantées dans les terminaisons nerveuses, dans les parties musculaires basses du corps, et à l'aide d'un déambulateur équipé de switch, vous verrez vos jambes fonctionner, eh bien, je serai encore chez vous. Et parce qu'avec toute cette micro-technologie, vous aurez retrouvé la santé, vous dirigerez une table pour prendre un repas, et le pain que vous mangerez à cette table, probablement que le boulanger aura acheté sa farine à un meunier qui aura produit la farine avec nos outils. Voilà donc la diversité des métiers dans lesquels mon entreprise exercer savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on est très différent de la coopération, mais pourtant, quelque part, et j'ai voulu un peu taquiner d'entrée de jeu tout à l'heure en disant que finalement, la coopérative, ce n'était qu'un statut juridique différent d'une entreprise, parce que quelque part, toute entreprise doit fonctionner et puis doit faire du profit. Alors c'est vrai que dans le système coopératif, le profit n'est pas distribuable. Il l'est dans une entreprise. Mais on est en sous-traitance, pour mon cas. En sous-traitance, on est dans le collaboratif avec des donneurs d'ordre, qu'on soit de deuxième rang, troisième rang, premier rang. Et quelque part, on est aussi, on coopère à la réalisation de grands projets industriels. Donc on est aussi coopératif dans une autre utilisation. Quand j'ai été invité à cette conférence, je me suis dit, mais par quel bout je vais pouvoir aborder le coopératif ? Je ne suis pas dedans. Et je me suis fait concurrence, puisqu'on est aussi dans la concurrence. Et je me suis posé une foultitude de petites questions. Et j'en suis arrivé à me dire, mais je vais peut-être, pour être intéressant, leur parler à vous-même qui êtes ici, qui nous faites l'honneur d'être présent ce soir, vous parler de la concurrence dans la relation humaine, dans la ressource humaine. On a beaucoup entendu parler de concurrence mondialisée, de concurrence acharnée, presque parce qu'il ne connaît pas l'entreprise d'action presque inavouable. Hein ? Non, mais ça marche pas comme ça quand même. Je vous rassure tout de suite, tout ce que l'on fait dans l'industrie est avouable. En fait, aussi bien dans une coopérative comme Sodial que dans une entreprise, certes lilliputienne comme la mienne, puisque je ne représente que 23 salariés, alors que Sodial, c'est 14 000 producteurs, 9 000 collaborateurs, 9 500 collaborateurs, 5 milliards de chiffre d'affaires. Finalement, tous ces producteurs que le système coopératif met ensemble, bah, ils rentrent tous en concurrence les uns avec les autres parce qu'ils sont quand même contraints de fournir des bons produits au meilleur prix, au prix coopératif, solidaire, mais coopératif. Donc, quelque part, ils sont en concurrence. Mais ce sont des producteurs qui ont besoin d'avoir des talents pour produire correctement. Et bien finalement, dans nos entreprises industrielles, on a aussi besoin d'avoir des talents. Et cette concurrence, elle se fait par tout ce que l'on peut trouver comme article, que peuvent être les rémunérations, que peuvent être les participations dans les entreprises. Quand je dis participation, je ne parle pas d'accord d'intéressement et de participation. Je parle de participation à la vie de l'entreprise, au bien-être du quotidien dans l'entreprise. Je rappelle, mais vous le savez bien, que dans une entreprise, entre le matin où on arrive et le soir où on repart, il va s'écouler entre 10 et 12 heures de la journée. Et c'est bien donc dans l'entreprise qu'on va passer la majeure partie de son temps. Et quelque part, il faut absolument que le collaborateur ou la collaboratrice qui arrive le matin sache que la journée va se dérouler correctement, normalement, sans anicroche, sans tension. Et tout ça, c'est une concurrence que le chef d'entreprise, dans ma taille d'entreprise, parce que je suis quotidiennement confronté à ces situations-là, bien que je passe 70% de mon temps sur les mandats, mais quand je suis dans l'entreprise, je suis confronté à soigner tous ces comportements, toute cette concurrence, puisque à chaque fois que je propose quelque chose dans l'entreprise, j'ai aussi des délégués du personnel, j'ai aussi des personnes qui vivent comme moi et qui me proposent en concurrence d'autres choses. Peut-être que ce que j'ai imaginé pour améliorer le quotidien n'est pas ce que la personne attendait. Et comme disait un grand homme, ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Je crois que c'est Gandhi qui l'a cité. Et la concurrence, elle est peut-être un petit peu tout simplement expliquée par cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend en considération l'attendu de chacun, ou est-ce qu'on va être force de proposition pour essayer toujours de proposer les meilleures améliorations qu'on puisse apporter. Et ce que je disais tout à l'heure quand on préparait cette réunion, c'est-à-dire que dans ce laps de temps que l'on passe dans une entreprise, il faut absolument qu'une fois que la journée est terminée et au moment où on rentre chez soi, quand on rentre chez soi, on est en couple ou pas en couple, si on est marié, on peut avoir des enfants ou pas d'enfants. Enfin, toujours est-il qu'il faut qu'on soit dans un état d'esprit lorsqu'on revient au bercail, dans un état d'esprit qui nous permette tout le temps, c'est mon point de vue, d'être zen, d'être serein, pour pouvoir affronter la deuxième partie de la journée. Ça peut être les études des enfants, ça peut être les courses, ça peut être le ménage, ça peut être le repas. En fait, toutes ces choses qui sont du quotidien aussi, mais d'un quotidien privé. Et le rôle de l'entreprise, c'est de garantir cet état d'esprit et ce mode de vie. Et c'est là encore que vient la concurrence. C'est-à-dire que vous l'avez bien compris que dans notre entreprise, dans celle que je représente, on est dans la haute technologie. Et dans la haute technologie, on se doit d'avoir des talents. Alors, on a entendu parler de collaboration dialogique. Je ne suis pas certain qu'au jour d'aujourd'hui, dans les process de fabrication qui sont relativement complexes, répondant à des systèmes normatifs, on puisse laisser faire sans qu'il y ait quelque part un management de production. Mais on est quand même tenu, effectivement, d'imaginer qu'on puisse avoir une organisation avec un organigramme en râteau, c'est-à-dire le dirigeant, peut-être un chef de production, et en dessous, des personnes qui sont au même niveau, mais qui soient pour chacune d'entre elles aussi bonnes dans la technique que dans l'administratif, puisque au jour d'aujourd'hui, on a absolument besoin de l'administratif pour pouvoir vendre ce que l'on produit, et vice-versa. Donc ce sont des métiers qui sont intimement liés. Et à ce moment-là, c'est aussi important, pour conserver les talents, d'imaginer, de regarder tout ce qui se passe autour dans d'autres entreprises, donc dans cette concurrence. Tiens, un tel a imaginé d'organiser, je ne sais pas moi, une sortie festive sur le mois de juillet, ou voilà. Qu'est-ce que ça va apporter à l'ensemble de son collège, de ses collaborateurs, de ses collaboratrices? Si moi qui suis à côté, qui suis à peu près dans le même métier, je ne le fais pas, est-ce que mes talents ne vont pas partir chez lui? Et on est tenu d'être dans ce monde concurrentiel, mais il n'est pas acharné, il n'est pas invivable. Hein, ça fait partie du mode de vie des entreprises. Je le savais quand j'ai créé mon entreprise. Les choses depuis ont changé, la mondialisation, etc., etc. Mais ça, c'est pour vous tous et vous toutes ici présents. Vous êtes confrontés aux mêmes problématiques que j'ai moi. Donc voilà un petit peu. Quand j'ai dit que j'allais être un peu plus bref, c'est vrai que je suis un peu plus bref. Je ne sais pas si je vous ai un peu intéressé. Peut-être que Bruno, vous avez des questions.
Monsieur Roland, merci pour cette intervention. Je voudrais juste réagir peut-être sur un point qui m'a intéressé, que je crois pouvoir déduire de ce qu'on nous a dit là. Le point qui m'a intéressé et que j'ai peut-être négligé dans mon développement, c'est justement la concurrence comme facteur de progrès, la concurrence comme facteur d'innovation. Parce que c'est vrai qu'on voit que dans les milieux qui ne sont pas du tout des milieux concurrentiels, au bout du compte, il n'y a pas cet entraînement, cette exigence de faire autrement, d'être meilleur, de chercher des procédés plus efficaces, etc. Et là encore, je vous dis ça parce que je repense à mon fameux sociologue Sennett qui fait une très belle analyse de l'évolution des ateliers au moment de l'invention de l'imprimerie. Et il dit, voilà, au fond, les ateliers, au moment de l'invention de l'imprimerie, ils ont été en quelque sorte agité par cette invention technique qui a déployé de multiples possibilités. Qu'est-ce que je vais utiliser comme caractère, des caractères plus ou moins gros, quelle typographie, quelle machine, quelle encre, etc., etc. Et les rapports qui jusque-là étaient des rapports extrêmement en silo, si vous voulez, entre les apprentis, les compagnons et puis les maîtres, hein, où c'était extrêmement où chacun faisait son truc dans une logique à la fois de répétition et de maîtrise. Sennett montre bien que la première grande révolution industrielle, elle s'est faite au XVIe siècle, donc dans ces ateliers-là, parce que il s'est agi en fait de d'abord le monde de l'édition explose, hein, vous le savez, pendant un siècle il s'imprime des quantités considérables d'ouvrages, hein, en Allemagne, en France, il y a des éditeurs célèbres, hein, en Suisse bien sûr, dans le mouvement de la réforme ensuite, dans le calvinisme. Mais il dit que voilà, il y a eu une espèce d'émulation, de concurrence en fait entre les opérateurs dans l'atelier, qui a fait exploser justement cette cette structuration en silos hein, des différents opérateurs et qu'au fond, l'innovation, l'exigence d'innovation a mis tout le monde dans une forme de, ben, pas dire d'égalité, mais enfin de recherche du mieux, du meilleur, d'un procédé plus efficace, plus économe, plus ceci, plus cela. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, la concurrence et l'exigence de l'innovation, en fait, est un réel facteur en fait, de progrès, enfin, d'évolution.